Chapitre 8 Les deux polices. Ainsi que nos lectrices et nos lecteurs ont pu s'en rendre compte au cours de ce récit, ainsi que plusieurs autres, l'auteur de ces lignes, chargé de faire connaître au public les hauts faits d'un détective privé, a toujours été le premier à rendre hommage à la police officielle. Jamais il n'a laissé passer l'occasion de mettre en lumière la valeur professionnelle de ses représentants et de rendre hommage au courage, à la probité, au sentiment d'honneur qui caractérise, sauf de rares exceptions, du plus petit au plus grand, ces précieux auxiliaires de la société. Nous n'avons jamais voulu, en outre, confondre notre ami Chantecoq avec certains des chefs plus ou moins honorables de ces officines qui, fondés sous les spécieux prétextes de recherche dans l'intérêt de la sécurité des familles, sont beaucoup trop souvent de véritables boîtes, car autant la police privée, quand elle est représentée par des honnêtes gens, et cette corporation en compte beaucoup plus qu'on ne le croit peut-être, mérite notre estime et notre sympathie, autant quand elle a pour directeur des individus tarés, qui ne cherche qu'à profiter des malheurs, des erreurs et des vices de nos contemporains, elle doit être traquée sans pitié et supprimée comme un véritable foyer de contagion. Qu'on nous pardonne cette déclaration de principe. Elle était absolument nécessaire à établir avant la scène que nous allons reproduire. En effet, si Chantecoq représentait le type idéal du détective privé, Monsieur Lérigny était, de son côté, la personnification même du parfait officier policier. Âgé de 40 ans environ, doué d'aptitudes et de connaissances professionnelles qu'il avait irrésistiblement portées aux si hautes fonctions qu'il occupait, d'ailleurs avec un rare mérite et un juste succès, Monsieur Lérigny était en outre un homme extrêmement courtois et cultivé. Très maître de lui, ne se mettait jamais en colère et ne servait même pas lorsqu'il se trouvait en présence de faits ou d'actes qui auraient pu lui inspirer un légitime mouvement d'humeur ou même une irritation des plus explicables. En cela, il ressemblait beaucoup à Chantecoq, sous les ordres duquel il avait servi lorsque le roi des détectives occupait un poste important à la Sûreté Générale. L'élève avait gardé à son maître, auquel il devait tout, une profonde reconnaissance et une sincère amitié. De son côté, Chantecoq l'appréciait infiniment et avait toujours conservé avec lui des relations empreintes de la plus franche cordialité. Parfois, lorsque M. Lérigny avait à élucider un cas embarrassant, il venait demander conseil à celui qui l'avait initié à l'art si difficile de poursuivre les malfaiteurs et de les arrêter. Aussi le grand Limier n'avait-il pas été quelque peu surpris en constatant qu'au sujet de cette affaire du tueur de femmes, qui était l'une des plus extraordinaires et des plus ardues qui se fussent produites depuis de nombreuses années, M. Lérigny ne fut pas encore venu le trouver. Et il se disait... Oh, pour qu'il s'y soit décidé aussi tard, il faut qu'il se soit passé quelque chose de nouveau ou d'anormal. À moins que... Chantecoq cessa de réfléchir. M. Lérigny s'avançait vers lui, la main tendue. « Bonsoir, mon cher maître, » attaqua-t-il. « Oh, excusez-moi de vous déranger à pareille heure. » Tout en échangeant avec lui un vigoureux shake-hand, Chantecoq reprenait. Oh, vous savez bien, mon cher ami, qu'ici, vous avez toujours été, vous serez toujours le bienvenu. Je le sais, reprenait le directeur de la police judiciaire. Mais je regrette vivement que le temps me manque pour venir vous rendre de plus fréquentes visites, car chaque fois que je vous vois et que je puis causer avec vous, ne fût-ce que quelques instants, j'apprends toujours quelque chose. Oh, mon cher Lérigny, se dérobait Chantecoq, toujours modeste. Je vous assure que vous exagérez. Pas du tout, protestait le policier officiel. Mais ne croyez pas que je suis ici pour vous prodiguer des compliments. Non, suis venu vous consulter. Ah, au sujet de l'affaire du tueur de femme. Ah, si que je m'en suis aperçu depuis longtemps, on ne peut rien vous cacher. Et les rêveries prenaient en souriant. Bon, je l'aurais fait beaucoup plus tôt, si de différents côtés on m'avait affirmé que vous vous en désintéressiez entièrement. C'était exact, reconnaissait Chantecoq. Mais cela n'est plus. Parfaitement. Les explications étaient claires et faciles entre deux hommes d'une telle trempe et d'un tel caractère, qui se connaissaient d'ailleurs à fond et professaient l'un envers l'autre, en plus d'une solide affection, une estime qui se doublait chez le cadet d'une déférence et d'une admiration sincère. Monsieur Lérémy reprit aussitôt. « J'ai appris qu'hier, grâce au concours d'un savant, dont le nom était jusqu'à ce jour inconnu, le professeur Courtil, c'est cela même, oui. Vous avez accompli le miracle de ressusciter l'une des victimes du tueur de femmes. Oh, comme toujours, mon cher directeur, vous êtes admirablement renseigné, déclarait le roi des détectives sans la moindre ironie. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'aujourd'hui nous avons été beaucoup moins heureux. Et que les 5 dernières victimes de cet effroyable bandit, c'est-à-dire celles qui ont été assassinées par lui avant-hier soir dans le dancing de l'avenue des Champs-Élysées, étaient hélas bien mortes et qu'il nous a été impossible de les ranimer. Mais je savais également, affirmait M. Lérémy avec franchise. Bon, mes compliments, on n'allait pas croire que je vous ai fait filer. Que l'auriez-vous fait? Vous auriez été strictement dans votre droit. Le directeur de la police judiciaire posait. Bien obligé d'enquêter sur le dernier décès, ainsi que sur les précédents. Ce sont mes inspecteurs qui m'ont révélé dans leur rapport votre intervention à laquelle je ne m'attendais plus. Oh, si je suis entré dans la danse, déclarait Chantecoq, c'est sur la prière instante du beau-père de Madame Marie-Louise Barois, qui voulait en savoir la vérité, toute la vérité, au sujet du décès mystérieux de sa bru. Et j'ai vite acquis que la preuve que le tueur de femmes, cette fois, n'avait pas frappé une femme infidèle, mais au contraire, la plus pure et la plus aimante des épouses. Puis, en contemplant la victime, j'ai eu l'intuition qu'elle était toujours vivante. Mon flair, ou dites plutôt votre génie. Alors je me suis souvenu qu'il existait rue Bonaparte un médecin méconnu de la science, ou plutôt des savants, qui avaient réussi à réveiller des gens que l'on croyait morts et qui n'étaient qu'endormis. Mais c'est à l'original. Je me suis déjà procuré son pédigré, déclarait Lorénie. « Un peu bien, oui, il m'a paru intéressant. »« En effet, affirmait Chantecoq, sans insister. » Et reprenant son récit, il poursuivit. « Alors je me suis rendu chez lui, je l'ai prié de venir avec moi chez M. Barois. Il a d'abord hésité, puis il s'est rendu à mes arguments. Mais je m'arrête, car d'après ce que vous venez de me dire, vous en savez aussi long que moi. »« Je le voudrais bien. » ponctua Lérénie avec un sourire quelque peu teinté de mélancolie. « Alors, s'exclamait Chantecoq, vous figurez que j'ai découvert le tueur de femmes ?»« Non, mais j'ai la conviction que vous êtes sur la piste. »« Mais je mentirais en vous disant le contraire, » reconnaissait loyalement le roi des détectives. Et dans un élan spontané, il ajouta, mais si cela vous gêne le moindrement que je m'occupe de ce sinistre individu, dites-le-moi franchement, mon cher ami, et je cesse instantanément de m'occuper de lui. Cela m'est d'autant plus facile que je me suis chargé d'aucun mandat particulier. Et si, après la résurrection de Madame Barois, j'ai continué à m'occuper de cette affaire, c'est uniquement par humanité. Mais je vous reconnais bien là, mon cher maître. Voyez-vous, l'araignée, reprenait Chantecoq, lorsque l'on possède l'argent et la renommée, que l'on se sent jeune encore et que l'on pourrait facilement prendre une retraite dorée, on est souvent tenté de se retirer de la circulation. Mais tout à coup, l'amour du métier vous reprend. On continue à travailler par dilettantisme et puis aussi parce que votre conscience votre engage à ne pas vous désintéresser de certains problèmes qui, en demeurant insolubles, risquent de causer un grand mal à la société. Mais rassurez-vous, mon cher Lérémy, je ne veux pas vous causer le moindre tort en agissant dans cette circonstance en marge de la police. Je suis prêt, au contraire, à me retirer, à m'effacer devant vous et même à vous révéler tout ce que je sais. Maître, je reconnais bien là aussi votre admirable générosité. Non, je suis logique avec moi-même. Nous poursuivons tous deux le même but. Alors, interrogeait Lérémy, poursuivons-le ensemble. Chantecoq se tut. Il prit sa pipe, la bourra, l'alluma. Lérémy le regardait en se demandant que va-t-il décider ? L'aurais-je froissé sans le vouloir ? Enfin, Chantecoq, après avoir absorbé quelques bouffées de tabac, reprenait. Ben, avant de vous répondre, mon cher ami, je me suis renfermé en moi-même et je vous demande vraiment et amicalement. Oui ou non, avez-vous besoin de moi ? Avec un accent d'indéniable sincérité, M. Lérémy ripostait. Mais j'ai la conviction, mon cher maître, que seul vous pouvez débrouiller cette énigme. Moi, j'y renonce. Pourquoi ? Parce que, pour atteindre ce bandit ou ce fou, il faudrait être doué d'un véritable don de divination qui me manque, et que vous possédez au plus haut point. Chantecoq plaisantait. Dites tout de suite que je suis un sorcier. Mais vous en avez tous les dons, toutes les facultés, répliquait le directeur de la police judiciaire. Alors vous croyez qu'au Moyen-Âge, on m'aurait brûlé sur un tas de fagots ? Non, mon cher maître, car vous n'eussiez jamais pu être qu'un sorcier bienfaisant. Et je crois que l'Église, si vous eussiez consenti à vous incliner devant sa doctrine, vous y considérez comme un envoyé de Dieu sur la terre, afin d'y accomplir des prodiges et qu'elle n'eût pas manqué, après votre mort, de vous cataloguer au nombre de ses saints. Ce Chantecoq, s'écria le grand Olivier en éclatant de rire. Voilà donc Saint-Pierre n'aurait certainement pas beaucoup aimé à entendre tinter à ses oreilles. Mais parlons sérieusement et revenons à la question. Gravement, cette fois, le roi des détectives martela. Désespérant à tort, j'en suis sûr de découvrir le tueur de femmes, et sachant que j'étais sur cette affaire, vous êtes venu me demander non seulement les tuyaux, mais encore ma collaboration. Mais c'est tout à fait cela. Mais je n'ai aucune raison de vous la refuser, à moins qu'à tout autre, à vous. Et je suis disposé à vous l'accorder, mais à deux conditions. Mais lesquelles, mon cher maître ? Eh bien, la première est que vous alliez immédiatement faire rentrer tous les inspecteurs et agents que vous avez mis en campagne et n'agir vous-même que suivant mes directives absolues. Mais ce procédé va vous paraître sans doute quelque peu dictatorial. Non, pas du tout, protestait le directeur de la police judiciaire. Et je souscris très volontiers à cette première condition. Chantecoq eut un signe de tête approbatif. Puis il reprit. Et la seconde, c'est que nos tractations demeureront absolument secrètes. En dehors de vous et de moi, il est bien entendu que personne ne saura, si je réussis, que c'est moi qui ai fait arrêter le tueur de femmes. Mais puis-je, mon cher maître, interrogeait Lerny, vous demandez pourquoi ? Mon cher ami, déclarait Chantecoq, je n'ai pas l'habitude de me faire payer les services que je rends à mes amis. Le directeur lui tendit la main. Jamais, s'écria-t-il, je n'oublierai ce que vous faites pour moi. Oui, sans vous, je risquais fort de perdre la confiance de mes supérieurs. Les journaux commencent à faire des allusions aux lenteurs de la police. Dans certains cabarets artistiques de Montmartre et d'ailleurs, des chansonniers lancent des couplets satiriques dans lesquels je suis plutôt égratigné. Grâce à vous, cela va cesser. Ne vendons pas la peau de l'ours, réservait le grand limier. Bon, avec vous, je suis tranquille, affirmait l'Herdy. Je parierai avec n'importe qui qu'avant 8 jours, vous aurez démasqué le tueur de femmes. Le front subitement embruni, le détective officiel observait. Mais cependant, je me demande si je puis accepter votre offre si généreuse et si désintéressée. Mais qu'est-ce qui vous prend? S'exclamait le patron de Météore. Mais je vous avouerai, mon cher maître, que plus j'ai réfléchi, plus je suis gêné de me dire que je vais récolter des lauriers que je n'ai pas mérités, et que de partout je vais recevoir des félicitations quand je ne devrais avoir que des blâmes. Ces scrupules vous honorent, répliqua le fin limier, et ne m'étonne nullement de votre part. Allez, en attendant, vous allez me faire le plaisir de les mettre de côté. Mais cependant, il n'y a pas de cependant. Je vous ai fait connaître mes conditions. Je n'ajouterai qu'un mot. C'est que je tiens peut-être encore davantage à la seconde qu'à la première. Chantecoq se leva et se dirigea vers son interlocuteur et lui dit avec cette monotonie charmante qui savait si bien lui gagner tous ceux qu'il voulait conquérir. Oh, ça, mon cher! Vous êtes trop au courant des choses et des gens de théâtre pour ne pas savoir qu'il arrive fréquemment que les pièces écrites en collaboration ne portent qu'un seul nom d'auteur. Certes, mon cher maître, ripostait l'Hérédie, mais permettez-moi de vous faire respectueusement observer. L'auteur qui n'a pas signé touche une part de droit quelquefois plus élevée que celle de son collègue. Les chants de coq interrogeaient. Mais est-ce que vous figurez que si je triomphe, le plaisir que j'éprouverai d'abord d'avoir fait cesser cet effroyable jeu de massacre, puis de vous avoir obligé, ne vaudra pas mieux que tout? Et avec une expression de très cordial et de très émouvant abandon, le roi des détectives poursuivit. Mon ami, je ne m'illusionne pas. Je vais bientôt atteindre l'automne de ma carrière. Non pas que j'aspire au repos. L'homme qui se sent encore assez fort pour se maintenir n'a pas le droit d'abandonner l'action, pas plus qu'en général, après avoir gagné plusieurs victoires, ne peut sans trahir déclarer « Je sais gagner une bataille comme ça, j'ai bien le droit d'aller goûter à mon tour les loisirs et les joies de la paix. » Ainsi là-dessus se retourna à sa charrue que lorsque Rome n'eut plus d'ennemis à vaincre. À notre époque, tout homme qui ne se sent encore égal à lui-même n'a pas le droit de déserter l'action. Tant que je ne connaîtrai pas de défaillance morale ou physique, je resterai sur la brèche et je continuerai, même uniquement par amour de l'humanité, à défendre la société contre les malfaiteurs qui, chaque jour, il faut hélas le reconnaître, lui portent des coups de plus en plus terribles. Voilà pourquoi, mon cher ami, en admettant que je vous oblige en vous aidant à vous emparer du tueur de femmes, j'estime que vous me rendez un service encore plus grand en me permettant de réaliser mon vœu le plus cher, vœu qui peut se résumer en un seul mot, servir. Dominé par cette argumentation, qui en élevant ainsi la question ne permettait plus à l'Hérénie la moindre hésitation, celui-ci s'écria: Oh, mon cher maître! Mais je ne puis que m'incliner devant votre volonté. À la bonne heure, donnez-moi vos directives, vos ordres, je vous obéirai. Et Chantecoq reprenait. Bon, pour ce soir, je n'ai qu'un renseignement à vous demander. Je résume en cette brève interrogation. Aujourd'hui, combien le tueur de femmes a-t-il fait de victimes? Aucune, répliqua le directeur de la police judiciaire. Vous en êtes absolument sûr? Absolument. Ce soir, avant de me rendre chez vous, je suis retourné à mon bureau et aucun cas n'avait été signalé. Parfait, Lérénie observait. Mais je pourrais fort bien que le misérable s'est aperçu que vous occupiez de lui et renoncé à continuer la série de ses meurtres. Chantecoq réfléchit un instant. Puis il eut un signe de tête négatif. Non, je n'en crois rien, dit-il. Je suis même persuadé qu'il n'y a qu'une interruption, et que cette interruption n'est due qu'à un empêchement matériel. Et Chantecoq ajouta: Téléphonez donc à la préfecture. Oh, je ne dirais pas autrement surpris que l'on vous informa que depuis votre départ, on a appris que le tueur de femmes s'était livré à un ou plusieurs nouveaux attentats. Tout de suite, Lérémy saisit l'appareil et demanda le numéro dont il avait besoin. Il n'eut pas trop de peine à l'obtenir et demanda aussitôt le chef de service en permanence qui s'empressa d'accourir à l'appareil. Allô, c'est moi, le directeur, lança le policier officiel. C'est bien vous, Vervin. Oui, monsieur le directeur. Quoi de nouveau? On nous signale deux nouveaux crimes du tueur de femmes. L'avenue des Champs-Élysées, à la hauteur du Grand Palais, l'autre avenue de la Grande Armée, sur le terre-plein, à la hauteur du numéro 52. Et a-t-on pu identifier les victimes? Oui, l'une est la femme d'un haut fonctionnaire des finances, et l'autre est la femme du président du conseil d'une grande société d'assurance. À quelles heures ces crimes ont-ils été commis? Le premier à 20 h, le second à 21 h. Bien, je vous remercie, dit M. Lérénie en raccrochant le récepteur. Se tournant vers Chantecoq, il reprit: Mais vous aviez raison. Le tueur de femmes a récidivé, ainsi que vous avez pu vous en rendre compte par les questions que je posais à mon interlocuteur. Bon, on était certain, déclarait Chantecoq, qui avait le triomphe modeste. Et il poursuivit: Oh, je ne puis rien vous dire encore. Vous avez jadis travaillé sous ma direction, vous n'avez certainement pas oublié que je n'aimais pas beaucoup me livrer à des prédilections, et que je ne communique à personne les hypothèses que je peux concevoir que lorsqu'elles se sont matérialisées pour moi en réalité. Tout ce que je puis vous dire, c'est que la nouvelle que vous venez de me donner, si elle est désastreuse pour les deux pauvres femmes qui ont succombé, est excellente pour mon enquête, car elle me permet d'établir un recoupement des plus utiles et dont vous ne tarderez pas à constater les effets. Je suis enchanté de ce que vous me dites, reprenait le directeur de la police judiciaire. Bien, si que vous me l'avez recommandé, je vais rentrer immédiatement à mon bureau et vais donner à mon subordonné mes instructions. D'un geste, Chantecloque arrêta son interlocuteur et lui dit d'un air étrange, sous lequel on devinait une certaine malice: Vous êtes toujours célibataire? Lérénie répliquait: Et si je m'étais marié, mon cher maître, croyez que vous en eussiez été le premier averti. Et d'un air de plus en plus malicieux, Chantecoq reprenait: Pas de rendez-vous important? Aucun. La nuit est à vous? Oui, la nuit est à moi. Alors, fit le grand limier d'un air satisfait, nous allons pouvoir travailler utilement. Et il appuya sur une sonnerie électrique. Un homme se dressa devant lui. C'était Météore qui venait de surgir tout à coup dans la pièce. Le roi des détectives n'était pas l'homme des grandes présentations. Tout de suite, il fit: Oh, mon cher Lérémy, je vous présente mon secrétaire et mon collaborateur, Météore. Je ne vous ferai pas son éloge en sa présence. Laissez-moi seulement vous dire que voilà bientôt 3 ans que je l'emploie. Cela vaut mieux, je crois, que tout. Monsieur Lérigny tendit cordialement la main à Météore, qui, obéissant aux ordres de son patron, venait de sténographier d'un bout à l'autre la conversation que le grand limier venait d'avoir avec le directeur de la police judiciaire. Chantecoq reprenait aussitôt. « Maintenant, Météore, nous allons collaborer confidentiellement avec la police officielle. Je n'ai pas besoin de te recommander le silence. Je sais mieux que personne combien tu es respectueux du secret professionnel. »« Patron, croyez devoir enchérir Météore. Oh, j'aimerais bien me couper la langue avec mes dents et l'avaler ensuite en guise de beefsteak plutôt. » Chantecoq interrompait. Non, nous ne sommes pas ici pour faire de la littérature, encore moins de la cuisine. Aussi tais-toi, et ne dis pas de bêtises. Météore mit un doigt sur sa bouche, ce qui indiquait qu'il était décidé à ne plus en laisser sortir une seule syllabe, tant qu'il n'en aurait pas reçu l'autorisation de son maître. Celui-ci reprit. Tu vas revêtir la tenue numéro 27. Tu reviendras me retrouver ici et je te dirai alors ce que tu as à faire. » Météore fit un simple signe d'acquiescement et s'évapora avec la même rapidité qu'il avait mise à apparaître. Jérémie reprenait. « Oh, ce garçon m'a l'air très intelligent. »« Et il l'est, » confirmait le roi des détectives. « Je suis de plus en plus satisfait, car il ne se contente pas de me rendre de jour en jour des services fort appréciables. » Il m'a voué un dévouement, une affection, qui ont achevé de m'attacher à lui. Certes, il a encore beaucoup à apprendre, mais je suis persuadé que, dans quelques années, il pourra très bien prendre à son tour une agence et se révéler un détective de premier ordre. Mais pendant qu'il est en train de se camoufler, mon cher Jérémy, car malgré les théories de la police moderne, je n'ai pas renoncé à un système qui jadis a obtenu tant de succès et m'en vaut encore de nos jours. Je reconnais qu'il a du bon et même de l'excellent, déclarait M. Lérigny. Le tout est de savoir s'en servir, et, à moins d'être extrêmement habile dans l'art de se grimer, il arrive très souvent qu'un agent se camoufle de travers et se fasse reconnaître plus facilement par ceux qu'il veut poursuivre que s'il les filait sous son véritable nom. Et sous son véritable aspect. « Mais vous avez absolument raison, mon cher, » reprenait le grand limier. « La vérité, voyez-vous, c'est qu'il ne faut être absolu en rien. Tous les systèmes ont du bon, tous ont du mauvais. Car, hélas, plus je m'avance en âge, plus je m'aperçois que la perfection n'est pas de ce monde. Le tout est d'en prendre et d'en laisser, et de s'inspirer dans tous ces actes du caractère des personnages auxquels on a affaire et des circonstances dans lesquelles se présentent les énigmes que l'on a à débrouiller. Aussi, dans le cas qui nous occupe, je fais camoufler mon secrétaire. Et moi, ce soir, je vais me présenter sous mes traits naturels, et vous, par exemple, voyons, non, il n'y a rien à craindre. Vous pouvez venir avec moi. Je vous emmène, sans éveiller la moindre méfiance, c'est le gibier que nous poursuivons. Mais puis-je vous demander, mon cher maître, quel rôle vous me destinez dans la pièce à laquelle nous allons collaborer ? Oh, un rôle très important, soyez-en sûr, et qu'on ne va pas tarder à devenir, je crois, le principal. Le directeur de la police judiciaire n'insista pas. Connaissant Chantecoq sur le bout du doigt, il savait très bien que celui-ci détestait les questions et qu'il n'aimait pas faire part de ses intentions, même à ses intimes collaborateurs. Ainsi que cela lui était arrivé à maintes reprises, lorsque jadis il servait sous ses ordres, il se dit « Bon, je n'ai qu'à lui emboîter le pas et à le suivre où il m'emmènera. » Chantecoq, qui devinait tout ce qui se passait dans l'esprit de son ami, lui demandait « Êtes-vous armé ?»« Oh oui, suffisamment pour me défendre, » répondait le détective officiel. « Mais je vais en faire autant, » répliquait Chantecoq. « Mais le genre d'arme que j'emploie en pareil cas ne ressemble certainement pas au vôtre. » Chantecoq se dirigea vers son coffre-fort, en fit manœuvrer le mécanisme secret et, l'ayant ouvert, plongea sa main droite à l'intérieur du meuble, d'où il retira deux boîtes en métal d'environ 30 cm². D'un air volontairement mystérieux, il fit simplement « Mais l'une contient la vie et l'autre contient la mort. » Mais ce n'est pas tout. Les moyens que vous aurez peut-être l'occasion de me voir utiliser sont insuffisants pour nous défendre contre le tueur de femmes. Car, en admettant que nous soyons repérés par lui, il peut très bien employer envers nous des procédés dont il s'est servi envers celle qu'il voulait faire disparaître et nous expédier, mon secrétaire, vous et moi, dans l'éternité, sans même que nous eussions le temps d'adresser un suprême adieu à nos amis et connaissances. Aussi, je crois que nous pourrions très bien aviser dès à présent au moyen d'éviter une pareille aventure, dont les conséquences seraient pour nous plus que désastreuses, c'est-à-dire irréparables. » Et les Régnier reprenaient en souriant. « Oh, je suis sûr que vous avez déjà trouvé le moyen de pallier ce danger. » « Oh, il y a déjà beau temps de cela, » ribotait Chantecoq. « Cela date même de 1917. Pendant que je faisais la chasse aux espions, figurez-vous que j'avais découvert qu'un de nos ennemis, qui avait réussi à pénétrer sur le territoire français, et qui n'était autre que l'un des savants les plus réputés de l'un des pays avec lesquels nous étions en guerre, avait inventé un système de piqûres, grâce auquel il pouvait faire mourir instantanément tous les gens qu'il gênait. Grâce à l'admirable service de renseignement qui fonctionnait chez nous, nous avions pu repérer ce gredin avant qu'il eût commencé la série de ses sinistres exploits. Inutile de vous dire qu'il visait très haut, mais pas besoin d'insister. Fort heureusement, les personnages qu'il avait résolu d'assassiner étaient fort bien gardés. Il n'était pas facile de les approcher. Malgré tout, en pareil cas, une surprise est toujours à craindre. Et voici ce que j'imaginais pour nous débarrasser de ce serpent à la morsure mortelle. Je m'en fus trouvé un chimiste qui était attaché au ministère de la guerre et passait à juste titre pour avoir déjà rendu d'immenses services à son pays, tant par ses géniales découvertes que par sa façon habile et prompte de les exploiter utilement. Je le mis au courant de la question et je lui demandai, un peu naïvement sans doute, s'il ne connaissait pas un produit ou s'il ne pouvait pas en fabriquer un qui pourrait immuniser les gens contre les piqûres de cet espion. Et tandis que je lui parlais, ce doux et grand savant me regardait d'un air un peu goguenard, si bien que je crus tout d'abord qu'il me prenait pour un fou et qu'il allait me prier poliment de prendre la porte. Je me trompais. En effet, lorsque j'eus terminé mon exposé, fort aimablement, mon chimiste me répondit du ton le plus naturel du monde. Rien de plus facile. J'ai déjà travaillé autrefois, bien avant la guerre, un produit qui nous garantissait contre les piqûres d'insectes, les morsures de serpents. Je suis d'ailleurs arrivé à un résultat excellent, dont beaucoup de nos explorateurs et coloniaux se sont servis avec succès. L'ennui, c'est que l'effet de ce produit ne dure que 24 heures. Il faut alors prendre un bain très chaud et recommencer à se badigeonner tout le corps avec ma pommade, qui d'ailleurs sèche instantanément et ne provoque aucune irritation de la peau. Et en modifiant ma formule, oh, très peu, j'ai la certitude absolue que l'on pourrait très bien l'utiliser pour se défendre contre les attentats imminents de ce gredin. Mais la difficulté sera d'en fabriquer en grande quantité, si nous voulions mettre à l'abri de toutes les attaques ceux qui en sont menacés. Mon cher maître, répondis-je, qu'à cela ne tienne. Donnez-moi votre formule, dont je vous jure de respecter le secret, et je vous garantis qu'avant 48 heures, tout sera terminé et que j'aurai écrasé la vipère. Mais ce bon savant, auquel je l'ai recommandé par une lettre autographe du ministère de l'Intérieur, me dit « Vous revenez me voir demain matin, je vous remettrai la formule en question. » Et c'est ce qu'il fit. En me remettant le papier sur lequel était tracée la vieille formule, il me dit « Vous pouvez être entièrement assuré. Je viens d'expérimenter sur moi-même en m'injectant une dose de poison capable de foudroyer un bœuf. Et vous voyez que je me porte aussi bien qu'hier. Vous pouvez donc, M. Chantecoq, être absolument tranquille. » Je partis, après avoir remercié le savant, qui, par la simple lumière de son génie, allait sauver la vie de tous ceux dont la France avait un si grand besoin. Je m'en fus chez un chimiste dont il m'avait indiqué l'adresse et qui avait exécuté sa formule. Et le soir même, j'emportai chez moi de quoi moindre abondamment le corps. Je dois reconnaître que cette pommade n'avait pas les inconvénients de bien d'autres. Elle n'était ni poisseuse, ni malodorante. Et dès qu'elle vous touchait la peau, elle se confondait si bien avec elle qu'au bout de quelques secondes, on avait l'impression qu'elle était entièrement évaporée. Le lendemain matin, je me badigeonnais entièrement le corps avec ce produit. Plein de confiance dans les affirmations de mon chimiste, et la suite des événements devait me prouver combien j'avais raison, je me mis à la recherche de l'espion, dont j'avais d'ailleurs le signalement complet, et sur lequel je possédais déjà des renseignements qui me mirent sur sa piste. Mais j'avais affaire à un madré compère. La poursuite s'annonçait longue et laborieuse. Aussi je résolus de brusquer les choses. Au lieu de me camoufler, je me présentais, sous mes traits naturels, dans la chambre très confortable qu'il occupait dans un excellent hôtel de la rive gauche. Oh, il me reconnut tout de suite. J'avais déjà eu affaire à lui, mais ceci est une autre histoire qui serait trop longue à raconter. Il pâlit légèrement, puis il se ressaisit aussitôt. Mais n'ayant pas encore à ma disposition ce fameux pistolet somnifère qui me permet d'endormir d'un seul coup mes adversaires et m'a rendu et me rendra encore tant de services, je braquai brusquement mon Browning sur lui et je lui dis « Vous êtes fait, inutile de me résister. » Mon espion avait immédiatement levé les bras en l'air. Je m'approchai de lui pour lui passer les menottes. Mais il avait du cran et de l'adresse. D'un coup de poing, il envoya mon arme se balader dans la chambre. Puis me saisissant le bras, il m'en cercla le bras droit d'une étreinte à laquelle il m'eût été facile de me dérober. Mais je voulais profiter jusqu'au bout de l'expérience, le prendre en flagrant délit, afin d'acquérir la certitude qu'il était bien l'homme que je cherchais. Donc, pour la forme seulement, je fis semblant de me débattre. Mais après quelques efforts volontairement stériles, je me mis à crier « Mais lâchez-moi, vous me faites mal, vous me brisez les os, assez, voyons, assez !» Il éclata d'un rire sardonique. Et tandis qu'il continuait à me paralyser le bras en un coup de jujitsu, dont il m'eût été très facile d'annihiler l'effet, il prit sur une table qui se trouvait tout près de lui une aiguille très fine qu'il m'enfonça légèrement dans la peau. C'était ce que j'attendais. Je fléchis immédiatement sur mes jambes. Son étreinte se desserra et je tombai comme une masse sur le parquet. Et je l'entendis alors murmurer en français. Il va falloir maintenant que je me débarrasse de cette charogne. Bon, ça va pas être bien difficile. Alors il se pencha vers moi. Je me relevais d'un bond de tigre, car à cette époque j'étais en pleine force. Vous voulez toujours, scandalait Rémy au passage. Chantecoq achevait. Oh, j'adressai à mon assassin un formidable crochet à la mâchoire qu'il met aussitôt knock-out. Mais j'abrège. 6 semaines après, le gredin était fusillé à la Caponnière de Vincennes. Excusez ce copieux récit. Mais il m'a vivement intéressé, affirmait l'Hérénie. En tout cas, reprenait le célèbre limier, il prouve que nous devons avoir entièrement confiance dans la formule de notre chimiste. Voilà pourquoi, avant de nous mettre en campagne, je vous invite à faire comme moi, c'est-à-dire à vous enduire le corps de ce précieux onguent qui vous mettra pendant 24 heures au moins à l'abri de toute atteinte. J'en ai fait fabriquer une quantité suffisante pour nous permettre de tenir tête victorieusement au monstre que nous voulons abattre, si vous acceptez. Mais j'accepte. Eh bien, veuillez donc me suivre dans mon cabinet de toilette. Mon cher maître, déclarait le directeur de la police judiciaire, que cette collaboration avec Shadcock Comblenez, puisqu'elle mettait fin à ses légitimes angoisses, mon cher maître, si vous n'étiez pas le désintéressement même, mais vous pourriez en ce moment réaliser une immense fortune. Mais comment cela ? Interrogeait le roi des détectives. Ben vous n'auriez qu'à faire passer dans les journaux une note annonçant que vous avez trouvé le moyen de protéger toutes les épouses infidèles de la mortelle piqûre du tueur de femmes. 24 heures après, vous ne suffiriez pas aux commandes. C'est bien possible, s'écria Shadcock. Mais c'est une opération à laquelle il ne faut pas songer. D'abord, cette formule ne m'appartient pas et je n'ai le droit de n'en servir que pour mon usage personnel. Puis je trouve beaucoup plus simple d'attaquer le mal dans sa racine, plutôt que d'employer un moyen empirique qui aurait tout à fait l'aspect d'un remède de charlatan. Et d'un ton mystérieux mais énergiquement affirmatif, le roi des détectives martela. Oh, ce n'est d'ailleurs qu'une affaire de temps, et même de très peu de temps. Et vous verrez, mon cher Rémy, que nous n'aurons pas besoin d'employer ce genre de publicité pour préserver ces malheureuses des mortelles piqûres du tueur de femmes.